Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Fermeture totale pour les uns, à partir de 22h pour les autres. De Marseille à Paris, l'incompréhension et la colère dominent encore chez les restaurateurs et les gérants de bars, contraints depuis hier soir à de nouvelles restrictions sanitaires. La police a mené de premiers contrôles dans la soirée, France Culture y était.
Le gouvernement lance aujourd'hui les premières enchères pour l'attribution des fréquences 5G.
L'opération devrait rapporter plusieurs milliards d'euros à l'État. C'est aussi un enjeu de compétitivité pour la France, explique le gouvernement. À la clé, un débit plus rapide, mais l'intérêt technologique en vaut-il la chandelle? Quelles conséquences pour l'environnement et la santé? Plusieurs questions et plusieurs points de vue dans ce journal entre la France et le Japon.
Et puis à la une encore, la hausse de près d'1,5 milliard d'euros du budget de l'éducation nationale.
Un tour de passe-passe dénoncent les syndicats car les suppressions de postes, elles aussi continuent. Des combats toujours plus meurtriers entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh. Focus sur la famille Aliyev dans ce journal, une famille au pouvoir depuis une trentaine d'années en Azerbaïdjan.
Et puis nous allons revenir justement sur ce conflit, Catherine, dans une dizaine de minutes, en compagnie de Florent Parmentier. Il est politologue et secrétaire général du CEVIPOF à Sciences Po.
Le Premier ministre Jean Castex reçoit ce matin les représentants de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, alors que les rideaux sont baissés à Aix et à Marseille et qu'à Paris, tout comme dans 10 autres grandes villes de France, l'arrêté obligeant les débits de boissons à fermer à partir de 22h est entré en vigueur hier soir. Et déjà de premiers contrôles de police dans la capitale, entre rappel à l'ordre et incompréhension des professionnels et de certains clients. Le reportage d'Anne Fauquemberg.
Dans cette brasserie proche de la place de la République, 22h30, encore quelques clients en terrasse, mais pas d'assiettes sur les tables, fait remarquer Blaise Le Chevalier. Il est le commissaire divisionnaire du centre de Paris qui regroupe les quatre premiers arrondissements de la capitale.
Il y a une tolérance pour la restauration, mais je vous redonne lecture, hein, à partir de 22h. Les débits de boissons sont fermés au public, c'est très clair. Il n'y a rien à manger sur les tables.
Si, il y a une personne là qui est en train de manger et lui, il est en train de finir sa bière. Il a 3 centimes de bière, leurs verres sont vides et elle boit un diabolo.
Le serveur a beau se défendre, dans les faits, à partir de 22h, il faut être assis et manger. Bar servant de la nourriture ou restaurant, les policiers scrutent les plats sur les tables, ce qui agace Daniel, le serveur du café-restaurant juste en face.
Comment on peut expliquer à des gens, madame, aujourd'hui, vous êtes à 22h obligée de devoir manger parce que le coronavirus, il est beaucoup plus puissant à 22h. Vous voyez, c'est ça qui est incompréhensible.
Et les clients compatissent, comme Carole et Jules, seuls sur cette autre terrasse, 2 verres et 1 mètre de distance entre ces deux collègues.
Les gestes barrières sont respectés.
C'est pas logique quoi, de pouvoir être tassé à 21h et pas
voilà. C'est juste une question de logique en fait.
Pour la police, hier soir, la logique c'était celle de la pédagogie, mais dès ce soir, les sanctions tomberont de 135 euros d'amende jusqu'à la fermeture administrative pour les établissements qui ne se plieront pas à ces nouvelles dispositions.
Et Alain Griset, le ministre délégué au PME, espère qu'il y aura des solutions permettant d'échapper à une fermeture totale des bars et des restaurants à Paris, sans préjuger toutefois du rendez-vous de ce matin entre Jean Castex et les représentants du secteur. Les aides prévues par le gouvernement à l'hôtellerie, les cafés et la restauration seront au menu des discussions. L'exécutif qui veut soutenir toutes les entreprises en difficulté et effacer les ravages de la crise sanitaire sur l'économie française d'ici 2022, année de la présidentielle. Le budget 2021 présenté hier est donc consacré à la relance, un plan inédit, on le sait, à hauteur de 100 milliards d'euros, quitte à creuser les déficits, réduisant de 10 milliards d'euros les impôts de production que les entreprises doivent acquitter. Un dispositif mal ciblé selon l'économiste Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Réduire les impôts de production, c'est une politique qui peut se défendre. Mais l'urgence pour l'année 2021, c'est plutôt de faire en sorte que les entreprises qui ont subi le choc du confinement, le choc de la crise sanitaire, puissent survivre. Et pour ça, ça veut dire annuler les dettes sociales qu'elles ont contractées, leur donner des subventions pour qu'elles rétablissent leur bilan, et surtout de le faire de façon ciblée sur les entreprises qui ont été le plus marquées par la crise sanitaire. Or là, en baissant les impôts de production, on baisse les impôts de production pour toutes les entreprises, y compris celles qui n'en ont pas besoin. Donc il y a une perte en efficacité de cette dépense fiscale qui, au lieu d'aller aux entreprises qui en ont le plus besoin, va être en fait saupoudrée sur l'ensemble du tissu productif. La crise qui s'annonce, et là le diagnostic du gouvernement est très clair, est une crise qui est très profonde. Et donc il faut tout faire pour essayer de l'amortir, parce que en l'amortissant, on peut rétablir la confiance dans l'économie et faire en sorte que l'épargne des ménages, qui a été accumulée pendant la période de confinement, puisse, elle, participer aussi au plan de relance. Le risque qu'il y a, c'est que si le marché du travail est dégradé en 2021, les ménages vont transformer leur épargne en épargne de précaution, et c'est ça qui va aussi contribuer à la récession en 2021.
Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, il répondait à Stanislas Vazak. Eux seront exonérés de cotisations patronales jusqu'en 2022. Les agriculteurs verront le dispositif destiné à soutenir la compétitivité des entreprises face à la concurrence internationale et européenne être prolongé jusqu'à l'an prochain. Dans le budget 2021 encore, le ministre de l'Éducation nationale voit sa dotation augmenter de plus d'1,4 milliard d'euros. Dans une profession qui peine à recruter, les jeunes enseignants verront donc leur salaire augmenter. Mais les syndicats dénoncent déjà une hausse budgétaire en trompe-l'œil à Kim Kasmi.
Si le budget du ministère de l'Éducation connaît une hausse de 3%, cela ne va pas empêcher 2000 suppressions de postes dans le secondaire. Malgré la hausse démographique, en effet, 28 400 élèves supplémentaires sont attendus l'année prochaine. Pour compenser, le ministère de l'Éducation prévoit des heures supplémentaires équivalentes à 3000 postes, ce qui n'est pas vraiment comparable. Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES.
On est dans la quatrième année de suppression de postes dans le second degré, alors qu'en même temps, on a eu sur la période 2018-2020 déjà plus de 100 000 élèves en plus et que l'augmentation d'effectifs va continuer jusqu'au moins 2023. Donc expliquer qu'on compense des postes par des heures supplémentaires, c'est vraiment de l'escroquerie, hein, parce que d'abord les enseignants du second degré sont déjà astreints à faire deux heures supplémentaires. Certains d'entre eux ne peuvent pas en faire parce qu'ils sont à temps partiel ou pour diverses raisons familiales. Mais en moyenne, on fait déjà plus à peu près une heure et demie. Et là, de toute façon, si on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, un tiers des heures supplémentaires du nombre augmenté n'a pas été consommé.
En revanche, du côté du primaire, 2039 postes seront créés, notamment pour assurer le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire, en CP, CE1 et en grande section de maternelle. La rue de Grenelle qui confirme également une enveloppe de 400 millions d'euros, notamment pour augmenter les salaires des professeurs débutants. Mais pour l'instant, pas question pour le cabinet de Jean-Michel Blanquer d'avancer des montants.
On le savait abyssal, mais restait à savoir à quel point le déficit de la sécurité sociale est estimé à 44,7 milliards d'euros contre un peu plus de 5 milliards l'an dernier. Un déficit inédit et des dépenses de santé exceptionnelles pour 2021 aussi, Covid oblige. On y revient dans le journal de 7h30.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutulle. Les demandes de moratoire de la Convention citoyenne pour le climat et les interpellations des Verts ou des élus de gauche n'y auront rien changé. C'est aujourd'hui que commencent les enchères pour l'attribution des premières fréquences pour la 5G.
La cinquième génération de communication mobile, les opérateurs Bouygues, Orange, Free et SFR pourraient débourser plusieurs milliards d'euros pour capter de nouveaux marchés et développer de nouveaux usages, plus de confort pour regarder des vidéos ou jouer en ligne, mais surtout davantage d'objets connectés à développer par les entreprises. Les citoyens, eux, continuent de s'interroger sur l'impact environnemental et sanitaire de ce nouveau développement technologique. Illustration entre Douai et la métropole lilloise où 80 antennes sont déjà équipées en 5G, testées par Orange depuis 2018. Des zones densément peuplées où potentiellement le réseau peut vite saturer. La 5G y fait toujours débat, Manon Klein.
Le très haut débit continue évidemment d'interroger. Bernard Marchal fait partie du collectif InfoLinky 62 dans le Pas-de-Calais. Un collectif qui se consacre également désormais à la 5G suite aux nombreux coups de fil des citoyens.
C'est les inquiétudes par rapport au sanitaire, hein, les trois quarts du temps. Et puis après, il y avait aussi la question fatale, à quoi ça sert?
Est-ce que c'est vraiment essentiel? C'est aussi la question que se pose l'opposant écologiste à la mairie de Lille, Stéphane Bally.
Il est grand temps que le politique, que les citoyens s'emparent de cette question qui est une vraie question de société. On a finalement le choix entre une société du toujours plus, du toujours plus vite et j'allais dire du toujours pourquoi. Pourquoi faire ? Quels sont nos besoins ? Quels sont nos usages et comment y répondre ?
La demande existe, assure Orange, chargé de tester la 5G à Lille et à Douai. Quand on demande à Ludovic Guilcher, directeur de l'opérateur téléphonique dans le Grand Nord-Est, s'il comprend ses inquiétudes, il répond prudemment.
Notre président Stéphane Richard a indiqué qu'il pouvait y avoir débat sur la question et qu'un débat est naturel. Voilà. Pour autant, nous considérons que la 5G est une opportunité formidable pour le pays.
Et à Lille, il pourrait y avoir débat. La maire Martine Aubry va demander un moratoire sur la question.
Pas d'opposition opposition en revanche au Japon, pays pionnier des télécommunications mobiles, où la 5G a été inaugurée il y a 6 mois maintenant. Au départ, l'idée était de commercialiser une nouvelle génération de smartphones et de services avant les Jeux Olympiques, finalement reportée à l'an prochain. Mais les industriels continuent leur opération séduction auprès du grand public. Le reportage à Tokyo de notre correspondante Karine Nishimura.
5G,そこは自由な世界だった. Bruyante publicité sur écran géant, la 5G est un produit commercial qui s'affiche ostensiblement dans les grandes villes japonaises sans crainte de vandalisme. Dans les hypermarchés de l'électronique, les opérateurs se disputent les chalands, mais le décollage est plus lent que prévu. Chez NTT Docomo, on vante avant tout les prouesses de la 5G pour la vidéo.
5G, pour cette application vidéo multi-écran en 5G, toutes les images sont fluides malgré la grande quantité de données, ce qui n'est pas faisable en 4G.
Plus de données, plus vite, mais concrètement, pour faire quoi ?
Pour les concerts et diffusions sportives, s'il y a sur place plusieurs caméras, le téléspectateur peut recevoir sur son téléphone simultanément les signaux de toutes ces caméras et choisir lui-même celle qu'il veut garder.
Pour le moment, le service est cependant limité, reconnaît honnêtement le préposé de NTT Docomo.
Le point faible de la 5G actuellement, c'est la faible couverture. Même Tokyo n'est pas totalement couverte, seulement des gares, des espaces définis ou des sites sportifs.
C'est plus tard que les choses changeront, d'abord pour les professionnels. La principale cible actuelle, ce sont les jeunes fanas de jeux et vidéos prêts à payer 1000 euros pour le smartphone et plus de 60 euros d'abonnement par mois.
Karine Nishimura à Tokyo pour France Culture. 95 morts, dont 11 civils. Le bilan des combats toujours plus meurtriers entre l'Azerbaïdjan, pays turcophone à majorité chiite, et les séparatistes arméniens chrétiens du Haut-Karabakh pourrait être bien plus lourd. Les deux camps affirmant chacun avoir tué des centaines de militaires ennemis. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui après un discours incisif du président turc en soutien à Bakou qui a nourri les craintes d'une escalade dans le Caucase. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan musulman où la famille Aliyev règne sans partage depuis une trentaine d'années maintenant, Claude Bruyot.
Ilham Aliyev qui se succède à lui-même depuis une quinzaine d'années à l'issue de scrutins à la régularité pour le moins douteuse ne bénéficie pas d'un charisme aussi grand que celui de son père Gaïdar, décédé en 2003, ancien membre du Politburo du Parti communiste soviétique, considéré comme celui qui a fait décoller le pays grâce à l'exploitation du gaz azéri en mer Caspienne. Cette manne gazière, Ilham Aliyev, lui, l'a converti au fil des années en achat d'armement, officiellement pour garantir l'indépendance du pays, coincé entre l'Iran, la Russie et la Turquie. Le pouvoir d'Ankara, d'ailleurs, est le seul aujourd'hui à lui apporter son soutien dans le conflit avec l'Arménie. Au point d'ailleurs qu'Aliyev serait poussé aujourd'hui par Erdogan, qui veut tester sans doute la neutralité du Kremlin dans l'affrontement avec l'Arménie. Objectif final pour Ankara, accroître son influence dans le Caucase Sud, comme il l'a fait auparavant en Libye et en Syrie. Ilham Aliyev, un président azéri qui serait donc tellement peu sûr de son pouvoir qu'il a nommé à ses côtés son épouse comme vice-présidente.
Claude Bruyot à Moscou pour France Culture. Le temps de ce mardi 29 septembre, légèrement pluvieux au nord, plus lumineux au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 15 et 20 degrés sur la moitié nord, 17 à 23 au sud.